Oui, c'est un bonjour à toutes et à tous. Dans un exercice plutôt périlleux, très certainement frustrant, et c'est juste pour essayer de redonner un aperçu de la journée d'hier, et aussi pour être sûr que les personnes qui viennent aujourd'hui et qui n'étaient pas là hier, mais je ne suis pas trop sûre, parce que dans la salle, je vois plutôt des gens, un certain nombre de gens qui étaient là hier, mais qu'il puisse y avoir une certaine suite. Donc, la journée, nous avons eu tout un certain nombre de trois exposés par Hervé Lecreuse, Laurent Terray, Robert Vautard, sur la partie incertitude vue sous l'angle du climat. Avant de parler d'incertitude, je pense qu'il est important de rappeler les certitudes, ce qu'a fait Hervé hier en démarrant. C'est-à-dire en fait qu'il y a, on observe une augmentation des gaz à effet de serre, on observe un réchauffement du climat et on un certain nombre d'éléments qui nous permettent de dire que ce réchauffement est lié aux activités humaines pour la majeure partie du réchauffement des 50 dernières années, et que tous les éléments qu'on a de connaissance nous montrent que le réchauffement va se poursuivre. Une partie est déjà induite par l'augmentation des gaz à effet de serre déjà réalisée, et que sauf arrêt fort des émissions, les émissions vont se poursuivre, et donc on va encore poursuivre ce réchauffement. Donc à partir de là, on a davantage fait le focus sur les incertitudes, et les incertitudes, il y en a un certain nombre. On a des incertitudes sur l'amplitude du réchauffement, sur la valeur qu'il a à une échelle régionale, sur les extrêmes, sur les précipitations. Je n'ai pas tout listé, mais on a un certain nombre d'incertitudes. Les causes de les différentes sources de ces incertitudes ont été pas mal discutées hier, avec une première source qui sont les scénarios socio-économiques. Ça va dépendre du chemin que l'on va suivre, ce qu'a appelé Laurent Terray une incertitude réflexive liée à la société et en interaction climat-société. Une deuxième source d'incertitude, les modèles, ou plus largement la connaissance et la représentation des processus, en particulier les nuages, comme l'a mentionné Hervé Le Treut, ou même les processus non pris en compte, comme par exemple la fonte du permafrost, qui n'est pas prise en compte dans les projections qui sont proposées. Laurent l'a appelé incertitude épistémique, donc liée à la connaissance. Troisième point, la variabilité interne du système, qui est donc une incertitude intrinsèque au climat et qui a été appelée stochastique, donc avec différents termes, mais qui regroupe ces trois types d'incertitudes. Alors pour illustrer ces trois types d'incertitudes et en même temps refaire le point sur le changement climatique pour être sûr qu'on part tous d'une certaine base commune, je reprends le graphe général de l'IPCC du dernier rapport du GIEC, du groupe d'experts sur l'évolution du climat en 2007, avec les projections, les simulations de réchauffement global au cours du XXe siècle, et la comparaison aux observations qui reproduit en fait le réchauffement observé, puis les projections avec des réchauffements typiquement en moyenne de 2 à 4 degrés, mais qui peuvent aller sur la fourchette complète de 1,1 à 6,4 pour l'incertitude maximale. Derrière ces courbes qui ont été largement diffusées, on a l'incertitude liée au scénario, puisque chacune des gammes de courbes en couleur correspondent aux différents scénarios socio-économiques. On a pour chaque scénario l'incertitude ici représentée pour les modèles atmosphère-océan, et ici incluant même aussi les rétroactions avec le carbone, donc l'incertitude complète que l'on a pour un scénario donné. Ça, c'est celle qui est liée au modèle. Donc on a entre ces différents... Là, ce sont les scénarios, et pour chacune des gammes, les modèles, donc la partie épistémique, plus la partie variabilité interne qui se mélange, puisqu'on fait un jeu de simulation, et les simulations incluent à la fois de la variabilité interne et et les différences entre modèles de climat. Alors, Laurent nous a montré des résultats récents qui mettent davantage... analyse la variabilité interne, c'est quelque chose que l'on connaît depuis longtemps, mais qui finalement on a dû à des limitations par les moyens de calcul, en fait, puisqu'on est extrêmement dépendant des moyens de calcul, relativement peu analysé, et il a montré un jeu de simulation pour un même scénario. Alors je ne sais plus lequel c'était, c'était A1B, donc un scénario intermédiaire. Des simulations sur des projections sur 60 ans, avec un jeu de 40 simulations faites avec les mêmes conditions, nous, de ce que l'on appelle le forçage, c'est-à-dire les mêmes conditions de scénario de gaz à effet de serre et d'aérosol, avec le même modèle, donc un seul modèle. Donc on réduit les sources d'incertitude à un scénario, un modèle, mais par contre la variabilité interne avec 40 simulations, et qui montrent les projections en Europe. C'est la moyenne sur les 60 ans ou à la fin des 60 ans?
C'est la tendance.
La tendance. Qui montre la moyenne des simulations, mais qu'on peut avoir les simulations les plus chaudes, enfin, et puis la simulation la moins chaude, moins marquée, et qui montre quand même des différences importantes, rien que dues par la variabilité interne. Ça, je pense que ça a frappé un certain nombre de gens, et c'est un résultat tout à fait nouveau, et qui est ici marqué en mettant la simulation la plus chaude, la simulation la moins chaude, pour un même scénario, même modèle, je répète, à Paris, Alger, Oslo, France et sur le globe. Et qui montre, alors sur le globe, on voit que l'effet de la variabilité interne est plus faible, parce que c'est sûr que y a des compensations, enfin, en faisant la moyenne globale, on annule des différences d'un endroit à l'autre. Mais c'est plus marqué quand on va regarder un endroit, et ça peut même donner des différences à un moment donné de plusieurs degrés jusqu'à 6 degrés pour une décennie, enfin pour une période donnée, hein, pas nécessairement sur l'ensemble de la période, mais ça montre la difficulté de la prise en compte de cette variabilité interne. La différence entre les modèles, alors un des diagnostics qui a été montré par Hervé Le Treut, c'est un diagnostic sur les précipitations, le changement de précipitation avec ses caractéristiques de diminution de précipitation dans les régions tropicales et subtropicales, augmentation dans les hautes latitudes, donc en bleu augmentation, en jaune diminution, et en pointillé les endroits où il y a un accord entre les modèles sur le signe du changement, même pas sur l'amplitude, mais sur le signe du changement, et qui montre qu'il y a des accords comme une augmentation des précipitations sur le nord de l'Europe, une diminution dans la région méditerranéenne, mais que des régions comme la région du Sahel, en fait, suivant les modèles, on trouve une augmentation, une diminution. Il n'y a pas d'accord pour le moment entre les résultats des modèles. Alors ça ne veut pas dire que ça va rester tout le temps comme ça, parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'il y a une évolution, une amélioration des modèles, on peut avoir des zones qui deviennent plus robustes entre les modèles. Mais bon, il y a des différences entre les modèles, c'est aussi un élément à prendre en compte, et qui fait que l'on conduit des exercices internationaux de simulation avec exactement les mêmes conditions, de façon à pouvoir vraiment comparer, toutes choses étant égales par ailleurs, les différences entre modèles. Alors, ces différences, elles interviennent également au niveau des extrêmes, et typiquement un phénomène comme les canicules, comme celle par exemple de 2003 qui a eu des impacts très importants sur la société. Donc les canicules sont clairement un des phénomènes où on attend une augmentation des canicules. Ici montré, j'illustre aussi, ça c'était un transparent de Laurent Terret également, les projections sur la France pour un scénario moyen A1B, sont des nouveaux résultats d'un projet, ce qu'on appelle, c'est un projet du GICC ou ANR, c'est un projet ANR. Nouveaux scénarios qui ont été réalisés avec 4 modèles régionaux pour la fréquence des canicules. Bon, les 4 sont d'accord pour montrer une augmentation des canicules, mais on voit quand même des différences régionales importantes avec, ici on doit être sur Arpège, enfin la partie Météo France, deux versions du modèle de l'IPSL, et Marc est un modèle qui tourne à Grenoble et qui montre que bon, on peut avoir des différences régionales importantes. Donc plus on veut aller à l'échelle régionale, et souvent plus les différences peuvent être importantes entre modèles. Donc il est important de ne pas s'appuyer sur une seule réalisation, et souvent dans le passé il y a eu tendance à, il y avait peu de réalisations sur la France, et c'est une chance qu'on puisse disposer d'un certain nombre de réalisations, de façon à éviter de donner un poids trop fort aux seules réalisations qu'on pourrait avoir par un seul modèle. Le point sur les extrêmes présenté par Robert Votard, en fait, il y a eu un rapport récent du GIEC, paru en 2012, le SREX, un rapport sur les extrêmes, je ne sais plus, Special Report on Extreme Events, qui vient de paraître. Et ce transparent est compliqué, mais le message est clair. Il donne pour chacune des régions, pour une période prochaine 2045, vers 2050, disons, ou vers 2090, il regarde le changement de retour de phénomènes extrêmes de chaud, ou des phénomènes qui d'habitude dans le climat actuel reviennent avec une période à peu près tous les 20 ans, c'est-à-dire en fait ça veut dire que c'est des phénomènes qui sont rares. En fait, au lieu de revenir, disons en moyenne à peu près tous les 20 ans, ce genre de phénomène va arriver beaucoup plus souvent, c'est-à-dire que leur période de retour va être beaucoup plus fréquente avec des diminutions, par exemple pour l'Europe. Dans les milieux du siècle, plutôt 5. Alors évidemment, ça dépend du scénario. Hein. En bleu, c'est un scénario plutôt bas, moyen et plus fort. On peut aller entre 5 et 2 jours au milieu du siècle, voire encore moins pour la fin du siècle. Donc ça, c'est une autre façon de montrer le retour des phénomènes extrêmes, tel qu'il a été présenté dans le résumé aux décideurs du SREX, même si la figure est un peu complexe et demande un peu de temps pour être bien comprise. Alors, à partir du climat, après nous avons brassé la partie impact avec Paul Ledley sur les écosystèmes, Florence Abetz sur l'hydrologie. La démarche est de partir des simulations des modèles globaux, généralement de ce qu'on appelle les désagréger ou de faire une descente d'échelle à l'échelle régionale, c'est-à-dire en fait avoir une information plus précise à une échelle régionale, enfin plus précise, du moins prenant en compte davantage des spécificités régionales comme par exemple le relief, les côtes, soit à partir de méthodes statistiques, soit à partir d'un autre modèle, et ensuite sont utilisés à l'intérieur d'un modèle d'impact pour étudier les impacts liés au changement du climat. Les écosystèmes, les différents travaux que nous a présentés Paul Ledley montrent qu'en fait, dans les incertitudes, celles sur la modélisation et la compréhension des phénomènes liés aux écosystèmes l'emportent sur les incertitudes que l'on a sur la partie climat elle-même. Il y a encore besoin de mieux comprendre, et en fait il y a finalement encore assez peu d'études et de connaissances du fonctionnement des écosystèmes, et c'est ce qui limite. Et je montrais un exemple qu'il a montré. Et en hydrologie, par contre, les modèles hydrologiques sont plus des modèles à la base physique. L'incertitude sur le climat qui domine l'incertitude générale des résultats sur les impacts sur l'hydrologie. Dans les deux cas, il y a également des impacts directs par les activités humaines et pas uniquement via le climat, que ce soit l'usage des terres, les prélèvements d'eau, et les deux ont clairement mis aussi en avant cet impact direct, et qu'on ne peut pas juste regarder la partie climat, et dans les discussions, c'était aussi un des points qui était mentionné. Un exemple sur les écosystèmes, sur le hêtre, avec la distribution actuelle de la répartition du hêtre, différents modèles d'écosystèmes, des modèles qui s'appuient plus sur la statistique comment fonctionnent, où sont les écosystèmes de hêtre, et puis des modèles qui sont plus sur le fonctionnement, qui incluent davantage le fonctionnement, donc différents types de modèles, il est hors de question, je détaille. Plus avant, mais bon, il faut savoir donc qu'il y a différentes approches dans ces modèles et des projections. Paul, dis-moi, je pensais à AMB.
Donc c'est les projections à 2050, et en rouge c'est les endroits où il y aura la disparition prévue de l'être. Le vert c'est stable et le bleu c'est l'augmentation de l'air de distribution. Donc c'est rouge, c'est pas bien.
Voilà, donc alors suivant les types de modèles, on voit que certains montrent une disparition probable du être, alors que d'autres, le être pourrait continuer à être pris en compte. Et apparemment, la différence, si j'ai bien compris, c'est beaucoup lié au fait que dans les modèles mécanistes, on prend en compte l'effet direct du CO2 sur la croissance, ce qui n'est pas pris en compte dans les phénomènes de niche, puisque ceux-ci sont très calibrés sur le fonctionnement actuel du climat. Donc cela rend plus difficile les recommandations possibles pour les forestiers, mais il y a d'autres cas où pour d'autres comme le pin écossais, si j'ai bien compris, où au contraire on peut davantage avoir des recommandations. Donc voilà, des incertitudes supplémentaires d'une certaine façon par la partie, le modèle d'écosystème lui-même. Sur l'hydrologie, les différentes études ont été faites pour étudier à la fois l'impact des scénarios, l'impact des modèles de climat, l'impact de l'hydrologie, qui ont tendance à montrer que, en fait, bon, les modèles de climat dans cette étude-là, la partie incertitude sur les modèles de climat l'emporte. C'est une erreur, hein, un indicateur de l'erreur qui est. Plus il est grand, plus l'erreur est importante. Et dans le cas d'un autre projet, on voyait apparaître au départ une erreur assez importante des modèles hydrologiques, mais apparemment c'est vraiment lié à un modèle. Et si on ne prend pas en compte ce modèle particulier et qu'on prend en compte l'ensemble des autres modèles, on voit que c'est la partie encore modèle de climat et des agrégations qui l'emporte sur l'incertitude associée au modèle d'hydrologie. Dans le panorama, dans cette donc quantifier, qualifier cette incertitude est tout un sujet, et en particulier dans le cadre du GIEC, Mina Duong nous a fait le point sur comment l'évolution de la prise en compte de ces incertitudes et comment elle est qualifiée a évolué au cours des différents rapports pour arriver dans le rapport. Dans le cinquième rapport en cours de préparation, un certain nombre de recommandations mettant en avant à la fois les aspects, les éléments que l'on a pour qualifier de les évidences, enfin, les éléments que l'on a de connaissance et de quantification des changements, et l'accord qu'il y a entre les différentes études, et qualifier le degré d'accord et le degré en fonction du degré aussi d'évidence, enfin je ne sais pas comment traduire évidence, preuve, merci, voilà, parce que j'arrivais plus à trouver le terme français. Voilà, donc il nous a fait le point sur l'évolution, et c'est intéressant de voir qu'à la fois derrière ce terme de qualification, de probabilité, il y a à la fois le côté qualifier la probabilité d'occurrence d'un événement, et aussi l'accord qu'il y a, donc le degré de consensus qu'il y a sur un certain une certaine conclusion. Cet aspect sur les probabilités, et comment en fait Éric Parent est revenu davantage sur cette notion en fait de probabilité, en nous mettant bien en avant que derrière même la notion de probabilité, en fait il y a deux approches, une approche qui est une incertitude, qui est une probabilité de quantifier de quels sont le nombre de cas qui peuvent se produire par rapport au nombre total de cas possibles, donc une approche très quantifiée qui est souvent celle on pense en fait en premier. Et que, en fait, il faut faire attention que souvent derrière l'incertitude, il y a une expression d'interprétation. Et j'avoue que je n'avais pas bien réalisé, je trouve que c'était très frappant de mettre bien en avant cet enjeu d'interprétation derrière la probabilité. Et que probablement dans le changement climatique, c'est quelque chose qui intervient finalement beaucoup. Il y a toute une partie subjective, soit liée à la connaissance que l'on a, soit liée à l'expérience que l'on a, ce qui fait que lorsqu'il y a décision sous incertitude, les conclusions qu'il nous a présentées liées d'analyse de neurosciences et de sciences cognitives montraient qu'en fait les typiquement quand il y a plus quand il y a un grand nombre, quand l'information s'accroît, souvent on finit par converger vers un avis commun, mais que donc la quantité d'informations joue un rôle, que les dans le cas où on est typiquement dans un cas stationnaire avec le changement du climat, que ça complique la construction de modèles statistiques, que qu'en fait l'observation et l'expérience que l'on a jouent un grand rôle dans la décision. Or dans le changement du climat, la difficulté c'est qu'on va vers un climat différent, donc l'expérience évidemment personnelle sera plus limitée, que le fait d'être l'inadaptation est plus difficile, enfin va être lui qualifié que le changement climatique pour lui était relativement rapide par rapport à l'échelle de décisions qui s'appuient sur toute une adaptation passée, et que la communication du risque joue un rôle, et la façon dont on le communique joue un rôle important. Donc ça, c'est peut-être des points qui pourront revenir aujourd'hui sur l'aspect plus lié avec la décision. Et puis, en dernier, sur l'incertitude et modélisation intégrée, c'est-à-dire pour pouvoir, en support à la décision, on a en général besoin d'intégrer un certain nombre d'éléments, à la fois le climat, par exemple l'économie et l'énergie, de façon à arriver à un centre de décision, et qu'il existe, Alain Horry nous a illustré, qu'il existe différentes méthodes qui permettent de piloter ces systèmes dynamiques qui sont dans des conditions d'incertains, mais que les méthodes les plus sophistiquées, on est limité à environ 5 variables d'état, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les utiliser sur des systèmes trop complexes. Par contre, il y a des alternatives qui combinent simulation, optimisation, dans ce qu'il appelle des métamodèles ou des modèles réduits qui vont être construits à partir de l'émulation de modèles numériques plus complexes, et que ça fait partie des outils qui peuvent aider à l'aide à la décision. Alain, j'ai du mal à rentrer plus sur le sujet qui m'était un peu moins familier que les autres. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça traduit à peu près les discussions, enfin les présentations qu'on a eues hier. Et Claude, tu as peut-être des points que tu souhaites réaliser.
Non, je pense qu'ils réapparaîtront toute la journée, parce que c'est vrai que les trois derniers exposés parlent de choses qu'on va reprendre de différentes façons ce matin. Donc c'est au cours de la discussion, je pense, que ça se